Dans les premiers jours de 1830, tout le monde parlait à Paris de la passion de Nucingen et du luxe effréné de sa maison. Le pauvre baron, affiché, moqué, pris d'une rage facile à concevoir, mit alors dans sa tête un vouloir de financier d'accord avec la furieuse passion qu'il se sentait au cœur. Il désirait, en pendant la crémaillère, pendre aussi l'habit du père noble et toucher le prix de tant de sacrifices. Toujours battu par la torpille, il se résolut à traiter l'affaire de son mariage par correspondance, afin d'obtenir d'elle un engagement chirographaire. Les banquiers ne croient qu'aux lettres de change. Donc, le loup cervier se leva, dans un des premiers jours de cette année, de bonne heure, s'enferma dans son cabinet et se mit à composer la lettre suivante, écrite en bon français, car s'il le prononçait mal, il l'orthographiait très bien. « Chère Esther, fleur de mes pensées et seul bonheur de ma vie, quand je vous ai dit que je vous aimais comme j'aime ma fille, je vous trompais et me trompais moi-même. Je voulais seulement vous exprimer ainsi la sainteté de mes sentiments, qui ne ressemblent à aucun de ce que les hommes ont éprouvé. D'abord parce que je suis un vieillard, puis parce que je n'avais jamais aimé. Je vous aime tant que si vous me coûtiez ma fortune, je ne vous en aimerais pas moins. Soyez juste. La plupart des hommes n'auraient pas vu, comme moi, un ange en vous. Je n'ai jamais jeté les yeux sur votre passé. Je vous aime à la fois comme j'aime ma fille Augusta, qui est mon unique enfant, et comme j'aimerais ma femme si ma femme avait pu m'aimer. Si le bonheur est la seule absolution d'un vieillard amoureux, demandez-vous si je ne joue pas un rôle ridicule. J'ai fait de vous la consolation, la joie de mes vieux jours. Vous savez bien que jusqu'à ma mort, vous serez aussi heureuse qu'une femme peut l'être. Et vous savez bien aussi qu'après ma mort, vous serez assez riche pour que votre sort fasse envie à bien des femmes. Dans toutes les affaires que je fais, depuis que j'ai eu le bonheur de vous parler, votre part se prélève et vous avez un compte dans la maison Nucingen. Dans quelques jours, vous entrez dans une maison qui, tôt ou tard, sera la vôtre, si elle vous plaît. Voyons, y recevrez-vous encore un père en m'y recevant, ou serai-je enfin heureux? Pardonnez-moi de vous écrire si nettement, mais quand je suis près de vous, je n'ai plus de courage, et je sens trop que vous êtes ma maîtresse. Je n'ai pas l'intention de vous offenser, je veux seulement vous dire combien je souffre, et combien il est cruel à mon âge d'attendre, quand chaque jour m'ôte des espérances et des plaisirs. La délicatesse de ma conduite est d'ailleurs une garantie de la sincérité de mes intentions. Ai-je jamais agi comme un créancier? Vous êtes comme une citadelle, et je ne suis pas un jeune homme. Vous répondez à mes doléances qu'il s'agit de votre vie, et vous me le faites croire quand je vous écoute. Mais ici, je retombe en de noirs chagrins, en des doutes qui nous déshonorent l'un et l'autre. Vous m'avez semblé aussi bonne, aussi candide que belle, mais vous vous plaisez à détruire mes convictions. Jugez-en. Vous me dites que vous avez une passion dans le cœur, une passion impitoyable, et vous refusez de me confier le nom de celui que vous aimez. Est-ce naturel? Vous avez fait d'un homme assez fort un homme d'une faiblesse inouïe. Voyez où j'en suis arrivée. Je suis obligée de vous demander quel avenir vous réservez à ma passion après 5 mois. Encore, faut-il que je sache quel rôle je jouerai à l'inauguration de votre hôtel. L'argent n'est rien pour moi quand il s'agit de vous. Je n'aurai pas la sottise de me faire à vos yeux un mérite de ce mépris. Mais si mon amour est sans borne, ma fortune est limitée et je n'y tiens que pour vous. Eh bien, si en vous donnant tout ce que je possède, je pouvais, pauvre, obtenir votre affection, j'aimerais mieux être pauvre et aimé de vous que riche et dédaigné. Vous m'avez si fort changé, ma chère Esther, que personne ne me reconnaît plus. J'ai payé 10 000 francs un tableau de Joseph Bridau, parce que vous m'avez dit qu'il était un homme de talent et méconnu. Enfin, je donne à tous les pauvres que je rencontre 5 francs en votre nom. Eh bien, que demande le pauvre vieillard qui se regarde comme votre débiteur quand vous lui faites l'honneur d'accepter quoi que ce soit? Il ne veut qu'une espérance. Et quelle espérance, grand Dieu! N'est-ce pas plutôt la certitude de ne jamais avoir de vous que ce que ma passion en prendra? Mais le feu de mon cœur aidera vos cruelles tromperies. Vous me voyez prêt à subir toutes les conditions que vous mettrez à mon bonheur, à mes rares plaisirs. Mais au moins, dites-moi que le jour où vous prendrez possession de votre maison, vous accepterez le cœur et la servitude de celui qui se dit, pour le reste de ses jours, votre esclave, Frédéric de Nucingen. « Et il m'ennuie, ce pot à millions !» s'écria Esther, redevenue courtisane. Elle prit du papier à poulet et écrivit, tant que le papier put la contenir, la célèbre phrase, devenue proverbe à la gloire de scribe. « Prenez mon ours !» Un quart d'heure après, saisie par le remords, Esther écrivit la lettre suivante. « Monsieur le baron, ne faites pas la moindre attention à la lettre que vous avez reçue de moi. J'étais revenue à la folle nature de ma jeunesse. Pardonnez-la donc, monsieur, à une pauvre fille qui doit être une esclave. Je n'ai jamais mieux senti la bassesse de ma condition que depuis le jour où je vous fus livrée. Vous avez payé, je me dois. Il n'y a rien de plus sacré que les dettes de déshonneur. Je n'ai pas le droit de liquider en me jetant dans la Seine. On peut toujours payer une dette en cette affreuse monnaie qui n'est bonne que d'un côté. Vous me trouverez donc à vos ordres. Je veux payer dans une seule nuit toutes les sommes qui sont hypothéquées sur ce fatal moment. Et j'ai la certitude qu'une heure de moi vaut des millions, avec d'autant plus de raison que ce sera la seule, la dernière. Après, je serai quitte et je pourrai sortir de la vie. Une honnête femme a des chances de se relever d'une chute. Mais nous autres, nous tombons trop bas. Aussi ma résolution est-elle si bien prise que je vous prie de garder cette lettre en témoignage de la cause de la mort de celle qui se dit pour un jour votre servante, Esther. Cette lettre partie, Esther eut un regret. 10 minutes après, elle écrivit la troisième lettre que voici. « Pardon, cher baron. C'est encore moi. Je n'ai voulu ni me moquer de vous, ni vous blesser. Je veux seulement vous faire réfléchir sur ce simple raisonnement. Si nous restons ensemble, dans les relations de père à fille, vous aurez un plaisir faible, mais durable. Si vous exigez l'exécution du contrat, vous me pleurerez. Je ne veux plus vous ennuyer. Le jour que vous aurez choisi le plaisir au lieu du bonheur, sera sans lendemain pour moi. Votre fille, Esther. » À la première lettre, le baron entra dans une de ces colères froides qui peuvent tuer les millionnaires. Il se regarda dans la glace. Il sonna. « Un pain-de-pied » cria-t-il à son nouveau valet de chambre. Pendant qu'il prenait le bain de pied, la seconde lettre vint. Il la lut et tomba sans connaissance. On porta le millionnaire dans son lit. Quand le financier revint à lui, Madame de Nucingen était assise au pied du lit. « Cette fille a raison, lui dit-elle. Pourquoi voulez-vous acheter l'amour? Cela se vend-il au marché? Voyons votre lettre. » Le baron donna les divers brouillons qu'il avait faits. Madame de Nucingen les lut en souriant. La troisième lettre arriva. « C'est une fille étonnante !» s'écria la baronne, après avoir lu cette dernière lettre. « Que faire, madame ?» demanda le baron à sa femme. « Attendre. »« Attendre !» reprit-il. « La nature est impitoyable. »« Tenez, mon cher, » dit la baronne, « vous avez fini par être excellent pour moi. Je vais vous donner un bon conseil. »« Vous êtes une bonne femme, » dit-il. « Faites tes têtes, je les paye. » Ce qui vous est arrivé à la réception des lettres de cette fille touche plus une femme que des millions dépensés, ou que toutes les lettres, tant belles soient-elles. Tâchez qu'elle la prenne indirectement. Vous la posséderez peut-être, et n'ayez aucun scrupule. Elle n'en mourra point, dit-elle en toisant son mari. Madame de Nucingen ignorait entièrement la nature fille. Comme Montame de Nucingen a de l'esprit, se dit le baron quand sa femme l'eut laissé seule. Mais plus le banquier admira la finesse du conseil que la baronne venait de lui donner, moins il devina la manière de s'en servir. Et non seulement il se trouvait stupide, mais encore il se le disait à lui-même. La stupidité de l'homme d'argent, quoique devenue quasi proverbiale, n'est cependant que relative. Il en est des facultés de notre esprit, comme des aptitudes de notre corps. Le danseur a sa force aux pieds, le forgeron a la sienne dans les bras, le fort de la halle s'exerce à porter des fardeaux, le chanteur travaille son larynx, et le pianiste se sémente le poignet. Un banquier s'habitue à combiner les affaires, à les étudier, à faire mouvoir les intérêts, comme un vaudevilliste se dresse à combiner les situations, à étudier des sujets, à faire mouvoir des personnages. On ne doit pas plus demander au baron de Nucingen l'esprit de conversation qu'on ne doit exiger les images du poète dans l'entendement du mathématicien. Combien se rencontre-t-il par époque de poètes qui soient, ou prosateurs, ou spirituels, dans le commerce de la vie, à la manière de Madame Cornuel. Buffon était lourd, Newton n'a pas aimé, Lord Byron n'a guère aimé que lui-même. Rousseau fut sombre et quasi fou, La Fontaine était distrait. Également distribué, la force humaine produit les sots ou la médiocrité partout. Inégale, elle engendre ces disparates auxquelles on donne le nom de génie, et qui, si elles étaient visibles, paraîtraient des difformités. La même loi régit le corps. Une beauté parfaite est presque toujours accompagnée de froideur ou de sottise. Que Pascal soit à la fois un grand géomètre et un grand écrivain, que Beaumarchais soit un grand homme d'affaires, que Zamet soit un profond courtisan, ces rares exceptions confirme le principe de la spécialité des intelligences. Dans la sphère des calculs spéculatifs, le banquier déploie donc autant d'esprit, d'adresse, de finesse, de qualité qu'un habile diplomate dans celle des intérêts nationaux. Sorti de son cabinet, s'il était encore remarquable, un banquier serait alors un grand homme. Nucingen, multiplié par le prince de ligne, par Mazarin ou par Diderot, est une formule humaine presque impossible, et qui cependant s'est appelée Périclès, Aristote, Voltaire et Napoléon. Le rayonnement du soleil impérial ne doit pas faire tort à l'homme privé. L'empereur avait du charme, il était instruit et spirituel. Monsieur de Nucingen, purement banquier, sans aucune invention hors de ses calculs, comme la plupart des banquiers, ne croyait qu'aux valeurs certaines. En fait d'art, il avait le bon sens de recourir, l'or à la main, aux experts en toutes choses, prenant le meilleur architecte, le meilleur chirurgien, le plus fort connaisseur en tableaux, en statues, le plus habile avoué. Dès qu'il s'agissait de bâtir une maison, de surveiller sa santé, d'une acquisition de curiosité ou d'une terre. Mais comme il n'existe pas d'experts jurés pour les intrigues, ni de connaisseurs en passion, un banquier est très malmené quand il aime et très embarrassé dans le manège de la femme. Nucingen n'inventa donc rien de mieux que ce qu'il avait déjà fait. Donner de l'argent à un frontin quelconque, mâle ou femelle, pour agir et pour penser à sa place. Madame Saint-Estève pouvait seule exploiter le moyen trouvé par la baronne. Le banquier regretta bien amèrement de s'être brouillé avec l'odieuse marchande à la toilette. Néanmoins, confiant dans le magnétisme de sa caisse et dans les calmants signés « Gara », il sonna son valet de chambre et lui dit de s'enquérir, rue Neuve-Saint-Marc, de cette horrible veuve en la priant de venir. À Paris, les extrêmes se rencontrent par les passions. Le vice y soude perpétuellement le riche au pauvre, le grand au petit. L'impératrice y consulte Mademoiselle Lenormand. Enfin, le grand seigneur y trouve toujours un ramponneau de siècle en siècle. Le nouveau valet de chambre revint 2 heures après. « Monsieur le baron, dit-il, Madame Saint-Estève est ruinée. »« Ah, tant mieux !» dit le baron joyeusement. « Je la tiens !» La brave femme est, à ce qu'il paraît, un peu joueuse, reprit le valet. De plus, elle se trouve sous la domination d'un petit comédien des théâtres de la banlieue, que par décence, elle fait passer pour son filleul. Il paraît qu'elle est excellente cuisinière. Elle cherche une place. Ces diables de chenilles subalternes ont tous 10 manières de gagner de l'argent et tous manières de le dépenser, dit le baron, sans se douter qu'il se rencontrait avec Panurge. Il renvoya son domestique à la recherche de Madame Saint-Estève, qui ne vint que le lendemain. Questionné par Asie, le nouveau valet de chambre apprit à cet espion femelle les terribles résultats des lettres écrites par la maîtresse de Monsieur le baron. « Monsieur doit bien aimer cette femme-là, » dit en terminant le valet de chambre, « car il a failli mourir. Moi, je lui donnais le conseil de n'y pas retourner. Il se verrait bientôt cajolé. Une femme qui coûte à Monsieur le baron déjà 500 000 francs, dit-on, sans compter ce qu'il vient de dépenser dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges. Mais cette femme-là veut de l'argent, et rien que de l'argent. En sortant de chez monsieur, Madame la baronne disait en riant, « Si cela continue, cette fille-là me rendra veuve. »« Diable !» répondit Asie, « il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. »« Monsieur le baron n'espère plus qu'en vous, » dit le valet de chambre. « Ah, c'est que je me connais à faire marcher les femmes. »« Allons, entrez, » dit le valet de chambre, en s'humiliant devant cette puissance occulte. « Eh bien, » dit la fausse Saint-Estève, en entrant d'un air humble chez le malade. « Monsieur le baron éprouve donc de petites contrariétés. Que voulez-vous? Tout le monde est atteint par son faible. Moi aussi, j'ai eu des malheurs. En 2 mois, la roue de la fortune a drôlement tourné pour moi. Me voilà cherchant une place. Nous n'avons été raisonnables ni l'un ni l'autre. Si monsieur le baron voulait me placer en qualité de cuisinière chez Madame Esther, il aurait en moi la plus dévouée des dévouées, et je lui serais bien utile pour surveiller Eugénie et Madame. Il ne s'agit point de cela, dit le baron. Je ne puis parvenir à être le maître, et je suis mené comme une toupie, reprit Asie. Vous avez fait aller les autres, papa. La petite vous tient et vous polissonne. Le ciel est juste. Juste, reprit le baron, je ne t'ai pas fait venir pour entendre de la morale. Bah, mon fils, un peu de morale ne gâte rien. C'est le sel de la vie pour nous autres, comme le vice pour les dévots. Voyons, avez-vous été généreux? Vous avez payé ses dettes? Oui, dit piteusement le baron. C'est bien. Vous avez dégagé ses effets, c'est mieux. Mais convenez-en. Ce n'est pas assez. Ça ne lui donne encore rien à rire. Et ces créatures aiment à flamber. Je lui prépare une surprise, rue Saint-Georges. Elle le sait, dit le baron. Mais je ne veux pas être un jobard. Eh bien, quittez-la. J'ai peur qu'elle ne me laisse aller, s'écria le baron. Et nous en voulons pour notre argent, mon fils, répondit Asie. Écoutez, nous en avons carotté de ces millions au public, mon petit. On dit que vous en possédez 25. Le baron ne put s'empêcher de sourire. Eh bien, il faut en lâcher un. Je le lâcherai bien, répondit le baron. Mais je ne l'aurai pas plutôt lâché. Comment demandera un second? Oui, je comprends, répondit Asie. Vous ne voulez pas dire B, de peur d'aller jusqu'à Z. Esther est honnête fille, cependant. « Très honnête fille !» s'écria le banquier. « Elle veut bien s'exécuter, mais comme on s'acquitte d'une dette !»« Enfin, elle ne veut pas être votre maîtresse. Elle a de la répugnance, et je la conçois. L'enfant a toujours obéi à ses fantaisies. Quand on n'a connu que de charmants jeunes gens, On se soucie peu d'un vieillard. Vous n'êtes pas beau. Vous êtes gros comme Louis XVIII et un peu bêta, comme tous ceux qui cajolent la fortune au lieu de s'occuper des femmes. Eh bien, si vous ne regardez pas à 600 000 francs, dit Asie, je me charge de la faire devenir pour vous tout ce que vous voudrez qu'elle soit. 600 000 francs ! S'écria le baron en faisant un léger sursaut. Esther me coûte 1 000 000 déjà. Le bonheur vaut bien 1 600 000 francs, mon gros corrompu. Vous connaissez des hommes dans ce temps-ci qui certainement ont mangé plus d'un et de 2 000 000 avec leurs maîtresses. Je connais même des femmes qui ont coûté la vie et pour qui l'on a craché sa tête dans un panier. Vous savez ce médecin qui a empoisonné son ami ? Il voulait la fortune pour faire le bonheur d'une femme. Oui, je le sais, mais si je suis amoureuse, je ne suis pas bête, ici du moins, car quand je la vois, je lui donnerai mon portefeuille. Écoutez, monsieur le baron, dit Asie en prenant une pause de Sémiramis. Vous avez été assez rincé comme ça. Aussi vrai que je me nomme Saint-Estève, dans le commerce, s'entend, je prends votre parti. Bien, je te récompenserai. Je le crois, car je vous ai montré que je savais me venger. D'ailleurs, sachez-le, papa, dit-elle en lui jetant un regard effroyable. J'ai les moyens de vous souffler, madame Esther, comme on mouche une chandelle. Et je connais ma femme. Quand la petite gueuse vous aura donné le bonheur, elle vous sera plus nécessaire encore qu'elle ne vous l'est en ce moment. Vous m'avez bien payé. Vous vous êtes fait tirer l'oreille, mais enfin vous avez financé. Moi, j'ai rempli mes engagements, pas vrai ? Eh bien, tenez, je vais vous proposer un marché. Voyons. Vous me placez cuisinière chez madame. Vous me prenez pour 10 ans, j'ai 1 000 francs de gage. Vous payez les 5 dernières années d'avance. Un denier à Dieu, quoi. Une fois chez madame, je saurai la déterminer aux concessions suivantes. Par exemple, vous lui ferez arriver une toilette délicieuse de chez madame Auguste, qui connaît les goûts et les façons de madame, et vous donnerez des ordres pour que le nouvel équipage soit à la porte à 4 heures. Après la bourse, vous montez chez elle, et vous allez faire une petite promenade au bois de Boulogne. Eh bien, cette femme dit ainsi qu'elle est votre maîtresse. Elle s'engage au vu et au su de tout Paris. 100 000 francs. Vous dînerez avec elle. Je sais faire de ces dîners-là. Vous la menez au spectacle, aux variétés, à l'avant-scène. Et tout Paris dit alors, voilà ce vieux filou de Nucingen avec sa maîtresse. C'est flatteur de faire croire ça. Tous ces avantages-là, je suis bonne femme, sont compris dans les premiers 100 000 francs. En 8 jours, en vous conduisant ainsi, vous aurez fait bien du chemin. J'aurais payé 100 000 francs. Dans la seconde semaine, reprit Asie, qui n'eut pas l'air d'avoir entendu cette piteuse phrase, madame se décidera, poussée par ses préliminaires, à quitter son petit appartement et à s'installer dans l'hôtel que vous lui offrez. Votre Esther a revu le monde, elle a retrouvé ses anciennes amies, elle voudra briller, elle fera les honneurs de son palais. C'est dans l'ordre. Encore 100 000 francs. Dame, vous êtes chez vous, Esther est compromise, elle est à vous. Reste une bagatelle dont vous faites le principal. Vieux éléphant, ouvre-t-il des yeux ce gros monstre-là ? Eh bien, je m'en charge. 400 000. Ah, pour ça, mon gros, tu ne les lâches que le lendemain. Est-ce de la probité ? J'ai plus de confiance en toi que tu n'en as en moi. Si je décide, madame, à se montrer comme votre maîtresse, à se compromettre, à prendre tout ce que vous lui offrirez, et peut-être aujourd'hui, vous me croirez bien capable de l'amener à vous livrer le passage du grand Saint-Bernard. Et c'est difficile, allez. Il y a là, pour faire passer votre artillerie, autant de tirages que pour le premier consul dans les Alpes. Et Bourgois, elle a le cœur plein d'amour, Rasibus, comme vous dites, vous autres qui savez le latin, reprit Asie. Elle se croit une reine de Saba, parce qu'elle s'est lavée dans les sacrifices qu'elle a faits à son amant. une idée que ces femmes-là se fourrent dans la tête. Ah, mon petit, il faut être juste, c'est beau. Cette farceuse-là mourrait de chagrin de vous appartenir. Je n'en serais pas étonnée. Mais ce qui me rassure, moi, je vous le dis pour vous donner du cœur. Il y a chez elle un bon fond de fille. Tia, dit le baron, qui écoutait Asie dans un profond silence et avec admiration, le chenil de la corruption, comme chez le chic de la banque. Est-ce dit, mon bichon ? Reprit Asie. Fa pour 50 000 francs au lieu de 5 000, et je donnerai 500 000 le lendemain de mon triomphe. Eh bien, je vais aller travailler, répondit Asie. Ah, vous pouvez venir, reprit Asie avec respect. Monsieur trouvera madame déjà douce comme un dos de chatte, et peut-être disposée à lui être agréable. Fa, fa, ma bonne, dit le banquier en se frottant les mains. Et après avoir souri à cette affreuse mulâtresse, il se dit « Comme on a raison d'avoir beaucoup d'argent !» Et il sauta hors de son lit, alla dans ses bureaux et reprit le maniement de ses immenses affaires, le cœur gai. Rien ne pouvait être plus funeste à Esther que le parti pris par Nucingen. La pauvre courtisane défendait sa vie en se défendant contre l'infidélité. Carlos appelait bégueulisme cette défense si naturelle. Horacia là, non sans employer les précautions usitées en pareil cas, à prendre à Carlos la conférence qu'elle venait d'avoir avec le baron et tout le parti qu'elle en avait tiré. La colère de cet homme fut comme lui terrible. Il vint aussitôt en voiture, les stores baissés chez Esther, en faisant entrer la voiture sous la porte. Encore presque blanc quand il monta, ce double faussaire se présenta devant la pauvre fille. Elle le regarda. Elle se trouvait debout. Elle tomba dans un fauteuil, les jambes comme cassées. « Qu'avez-vous, monsieur ? » lui dit-elle, en tressaillant de tous ses membres. « Laisse-nous, Europe, » dit-il à la femme de chambre. Esther regarda cette fille comme un enfant aurait regardé sa mère, de qui quelque assassin le séparerait pour pouvoir le tuer. « Savez-vous où vous enverrez Lucien ?» reprit Carlos, quand il se trouva seul avec Esther. « Où ? » demanda-t-elle d'une voix faible, en se hasardant à regarder son bourreau. « Là d'où je viens, mon bijou !» Esther vit tout rouge en regardant l'homme. « Aux galères !» ajouta-t-il à voix basse. Esther ferma les yeux, ses jambes s'allongèrent, ses bras pendirent. Elle devint blanche. L'homme sonna. Prudence vint. « Fais-lui reprendre connaissance, » dit-il froidement. « Je n'ai pas fini. » Il se promena dans le salon en attendant. Prudence Europe fut obligée de venir prier monsieur de porter Esther sur le lit. Il la prit avec une facilité qui dénotait une force athlétique. Il fallut aller chercher ce que la pharmacie a de plus violent pour rendre Esther au sentiment de ses maux. Une heure après, la pauvre fille était en état d'écouter ce cauchemar vivant, assise au pied du lit, le regard fixe et éblouissant, comme deux jets de plomb fondu. « Mon petit cœur, » reprit-il, « Lucien se trouve entre une vie splendide, honorée, heureuse, digne, et le trou plein d'eau, de vases et de cailloux, où il allait se jeter quand je l'ai rencontré. La maison de Grandlieu demande à ce cher enfant une terre d'un million, avant de lui obtenir le titre de marquis et de lui tendre cette grande perche appelée Clotilde, à l'aide de laquelle il montera au pouvoir. Grâce à nous deux, Lucien vient d'acquérir le manoir maternel, le vieux château de Rubempré, qui n'a pas coûté grand-chose, 30 000 francs. Mais son avoué, par d'heureuses négociations, a fini par y joindre pour 1 000 000 de propriétés, sur lesquelles on a payé 300 000 francs. Le château, les frais, les primes à ce qu'on a mis en avant pour déguiser l'opération aux gens du pays, ont absorbé le reste. Nous avons bien, il est vrai, 100 000 francs dans les affaires, qui d'ici à quelques mois vaudront 200 000 à 300 000 francs. Mais il restera toujours 400 000 francs à payer. Dans 3 jours, Lucien revient d'Angoulême, où il est allé, car il ne doit pas être soupçonné d'avoir trouvé sa fortune en cardant vos matelas. Oh non ! Dit-elle en levant les yeux, par un mouvement sublime. Je vous le demande. Est-ce le moment d'effrayer le baron ? Dit-il tranquillement. Et vous avez failli le tuer avant-hier. Il s'est évanoui comme une femme en lisant votre seconde lettre. Vous avez un fier style. Je vous en fais mes compliments. Si le baron était mort, que devenions-nous ? Quand Lucien sortira de Saint-Thomas d'Aquin, gendre du duc de Grandlieu, si vous voulez entrer dans la Seine, eh bien, mon amour, je vous offre la main pour faire le plongeon ensemble. C'est une manière d'en finir. Mais réfléchissez donc un peu. Ne vaudrait-il pas mieux vivre en se disant à toute heure cette brillante fortune, cette heureuse famille, car il aura des enfants, des enfants. Avez-vous pensé jamais au plaisir de passer vos mains dans la chevelure de ces enfants ? Esther ferma les yeux et frissonna doucement. Eh bien, en voyant l'édifice de ce bonheur, on se dit « Voilà mon œuvre !» Il se fit une pause, pendant laquelle ces deux êtres se regardèrent. « Voilà ce que j'ai tenté de faire d'un désespoir qui se jetait à l'eau, » reprit Carlos. « Suis-je un égoïste, moi ? Voilà comment l'on aime. On ne se dévoue ainsi que pour les rois. Mais je l'ai sacré roi, mon Lucien. On me riverait pour le reste de mes jours à mon ancienne chaîne. Il me semble que je pourrais y rester tranquille en me disant « Il est au bal, il est à la cour. » Mon âme et ma pensée triompheraient pendant que ma guenille serait livrée aux argousins. Vous êtes une misérable femelle, vous aimez en femelle. Mais l'amour chez une courtisane devrait être, comme chez toutes les créatures dégradées, un moyen de devenir mère, en dépit de la nature qui vous frappe d'infécondité. Si jamais on retrouvait, sous la peau de l'abbé Carlos Herrera, le condamné que j'étais auparavant, savez-vous ce que je ferais pour ne pas compromettre Lucien ? Esther attendit la réponse dans une sorte d'anxiété. Eh bien, reprit-il après une légère pause. « Je mourrai comme les nègres en avalant ma langue. Et vous, avec vos simagrées, vous indiquez ma trace. Que vous avais-je demandé ? De reprendre la jupe de la torpille pour 6 mois, pour 6 semaines, et de vous en servir pour pincer 1 million. Lucien ne vous oubliera jamais. Les hommes n'oublient pas l'être qui se rappelle à leurs souvenirs par le bonheur dont on jouit tous les matins. » En se réveillant toujours riche. Lucien vaut mieux que vous. Il a commencé par aimer Coralie. Elle meurt, bon. Mais il n'avait pas de quoi la faire enterrer. Il n'a pas fait comme vous tout à l'heure. Il ne s'est pas évanoui, quoique poète. Il a écrit 6 chansons gaillardes. Et il en a eu 300 francs, avec lesquels il a pu payer le convoi de Coralie. J'ai ces chansons-là. Je les sais par cœur. Eh bien, composez vos chansons. Soyez gaie, soyez folle, soyez irrésistible et insatiable. Vous m'avez entendu, ne m'obligez plus à parler. Baisez papa, adieu. Quand une demi-heure après, Europe entra chez sa maîtresse, elle la trouva devant un crucifix, agenouillée dans la pose que le plus religieux des peintres a donnée à Moïse, devant le buisson d'Horeb. Pour en peindre la profonde et entière adoration devant Jéhovah. Après avoir dit ses dernières prières, Esther renonçait à sa belle vie, à l'honneur qu'elle s'était fait, à sa gloire, à ses vertus, à son amour. Elle se leva. « Oh, madame, vous ne serez plus jamais ainsi !» s'écria Prudence Servien, stupéfaite de la sublime beauté de sa maîtresse. Elle tourna promptement la psyché, pour que la pauvre fille pût se voir. Les yeux retenaient encore un peu de l'âme qui s'envolait au ciel. Le teint de la juive étincelait. Trempée de larmes, absorbée par le feu de la prière, ses cils ressemblaient à un feuillage après une pluie d'été. Le soleil de l'amour pur les brillantait pour la dernière fois. Les lèvres gardaient comme une expression des dernières invocations aux anges. à qui sans doute elle avait emprunté la palme du martyr en leur confiant sa vie sans souillure. Enfin, elle avait la majesté qui dut briller chez Marie Stuart au moment où elle dit adieu à sa couronne, à la terre et à l'amour. J'aurais voulu que Lucien me vît ainsi, dit-elle en laissant échapper un soupir étouffé. Maintenant, reprit-elle d'une voix vibrante, Blagon. En entendant ce mot, Europe resta tout hébétée, comme elle l'eût pu l'être en entendant blasphémer un ange. Eh bien, qu'as-tu donc à regarder si j'ai dans la bouche des clous de girofle au lieu de dents? Je ne suis plus maintenant qu'une infâme et immonde créature, une fille, une voleuse, et j'attends Milord. Ainsi, fais chauffer un bain et apprête-moi ma toilette. Il est midi. Le baron viendra sans doute après la bourse. Je vais lui dire que je l'attends. Et j'entends qu'Asie lui apprête un dîner un peu chouette. Je veux le rendre fou, cet homme. Allons, va. Va, ma fille. Nous allons rire. C'est-à-dire, nous allons travailler. Elle se mit à sa table et écrivit la lettre suivante. Mon ami, si la cuisinière que vous m'avez envoyée n'avait jamais été à mon service, j'aurais pu croire que votre intention était de me faire savoir combien de fois vous vous êtes évanoui avant-hier en recevant mes 3 poulets. Que voulez-vous? J'étais très nerveuse ce jour-là. Je repassais les souvenirs de ma déplorable existence. Mais je connais la sincérité d'Asie. Je ne me repens donc plus de vous avoir fait quelque chagrin, puisqu'il a servi à me prouver combien je vous suis chère. Nous sommes ainsi, nous autres, pauvres créatures méprisées. Une affection vraie nous touche bien plus que de nous voir l'objet de dépenses folles. Pour moi, j'ai toujours eu peur d'être comme le porte-manteau où vous accrochiez vos vanités. Ça m'ennuyait de ne pas être autre chose pour vous. Oui, malgré vos belles protestations, je croyais que vous me preniez pour une femme achetée. Eh bien, maintenant vous me trouverez bonne fille, mais à condition de toujours m'obéir un petit peu. Si cette lettre peut remplacer pour vous les ordonnances du médecin, vous me le prouverez en venant me voir après la bourse. Vous trouverez sous les armes et parée de vos dons celle qui se dit pour la vie votre machine à plaisir. Esther. À la bourse, le baron de Nucingen fut si gaillard, si content, si facile en apparence, et se permit tant de plaisanteries, que du Tillet et les Keller, qui s'y trouvaient, ne purent s'empêcher de lui demander raison de son hilarité. « Je suis aimé, nous pantons bientôt la grémaillère, » dit-il à du Tillet. « À combien cela vous revient-il ? » lui répartit brusquement François Keller, à qui Madame Colville avait coûté, disait-on, 25 000 francs par an. « Jamais cette femme, qui est un ange, ne m'a demandé 2 liards. »« Cela ne se fait jamais, » lui répondit du Tillet. « C'est pour ne jamais rien avoir à demander qu'elle se donne des tantes ou des mères. » De la bourse à la rue Thébout, le baron dit 7 fois à son domestique. « Vous n'allez pas, fouettez donc le cheval !» Il grimpa lestement et trouva pour la première fois sa maîtresse, belle, comme le sont ses filles, dont l'unique occupation est le soin de leur toilette et de leur beauté. Sortie du bain, la fleur était fraîche, parfumée à inspirer des désirs à Robert d'Arbrissel. Esther avait fait une demi-toilette délicieuse, une redingote de raie noire, garnie en passementerie de soie rose, s'ouvrait sur une jupe de satin gris. Le costume que se fit plus tard la belle Amigo dans Zipuritanie. Un fichu de point d'Angleterre retombait sur les épaules en badinant. Les manches de la robe étaient pincées par des liserés pour diviser les bouffants que depuis quelque temps les femmes comme il faut avaient substitués aux manches à gigot devenues par trop monstrueuses. Esther avait fixé par une épingle sur ses magnifiques cheveux un bonnet de maline, dit à la folle, près de tomber et qui ne tombait pas, mais qui lui donnait l'air d'être en désordre et mal peigné, quoique l'on vît parfaitement les raies blanches de sa petite tête entre les sillons de ses cheveux. N'est-ce pas une horreur de voir madame si belle dans un salon passé comme celui-là, dit Europe au baron en lui ouvrant la porte du salon. « Eh bien, venez rue Saint-Georges, » dit le baron, en restant en arrêt comme un chien devant une perdrix. « Le temps est magnifique. Nous nous promènerons aux Champs-Élysées. Et Madame Saint-Estèphe, avec Eugénie, transporteront toute votre toilette, votre linge et notre dîner à la rue Saint-Georges. « Je ferai tout ce que vous voudrez, » dit Esther, « si vous voulez me faire le plaisir d'appeler ma cuisinière Asie et Eugénie Europe. J'ai surnommé ainsi toutes les femmes qui m'ont servi depuis les deux premières que j'ai eues. Je n'aime pas le changement. « Asie, Europe, » répéta le baron en se mettant à rire. « Comme vous êtes drôle. Vous avez des six machinations. J'aurais mangé bien tétiné avant de nommer une cuisinière Asie. » « C'est notre état d'être drôle, » dit Esther. « Voyons, une pauvre fille ne peut donc pas se faire nourrir par l'Asie et habiller par l'Europe, quand vous, vous vivez de tout le monde. C'est un mythe, quoi. Il y a des femmes qui mangeraient la terre. Il ne m'en faut que la moitié. Voilà. Quelle femme que m'entame cette Estèphe !» se dit le baron, en admirant le changement des façons d'Esther. « Europe, ma fille, il me faut un chapeau, » dit Esther. « Je dois avoir une capote de satin noir doublée de rose, garnie en dentelle. Madame Thomas ne l'a pas envoyée. Allons, baron, vite, haut la patte. Commencez votre service d'homme de peine, c'est-à-dire d'homme heureux. Le bonheur est lourd. Vous avez votre cabriolet. Allez chez Madame Thomas, » dit Europe au baron. « Vous ferez demander par votre domestique « la capote de Madame Van Bogseck. Et surtout, lui dit-elle à l'oreille, rapportez-lui le plus beau bouquet qu'il y ait à Paris. Nous sommes en hiver. Tâchez d'avoir des fleurs des tropiques. » Le baron descendit et dit à son domestique, « Chez Madame Thomas. » Le domestique mena son maître chez une fameuse pâtissière. « C'est une marchande de mottes, fichy pédate, et non de cateau, » dit le baron, qui courut au palais royal chez Madame Prévost, où il fit composer un bouquet de 5 louis, pendant que son domestique allait chez la fameuse marchande de mode. En se promenant dans Paris, l'observateur superficiel se demande quels sont ces fous qui viennent acheter les fleurs fabuleuses qui parent la boutique de l'illustre bouquetière et les primeurs de l'Européen Chevet, le seul, avec le rocher de Cancale, qui offre une véritable et délicieuse revue des deux mondes. Il s'élève tous les jours à Paris, cent et quelques passions à la Nucingen, qui se prouvent par des raretés que les reines n'osent pas se donner, et qu'on offre, et à genoux, à des filles qui, selon le mot d'Asie, aiment à flamber. Sans ce petit détail, une honnête bourgeoise ne comprendrait pas comment une fortune se fonde entre les mains de ces créatures, dont la fonction sociale, dont le système fourriériste, et peut-être de réparer les malheurs de l'avarice et de la cupidité. Ces dissipations sont sans doute au corps social ce qu'un coup de lancette est pour un corps pléthorique. En 2 mois, Nucingen venait d'arroser le commerce de plus de 200 000 francs. Quand le vieil amoureux revint, la nuit tombée, le bouquet était inutile. L'heure d'aller aux Champs-Élysées en hiver est de 2 heures à 4. Néanmoins, la voiture servit à Esther pour se rendre de la rue Thébault à la rue Saint-Georges, où elle prit possession du petit balai. Jamais, disons-le, Esther n'avait encore été l'objet d'un pareil culte, ni de profusion pareille. Elle en fut surprise, mais elle se garda bien, comme toutes ces royales ingrates, de montrer le moindre étonnement. Quand vous entrez dans Saint-Pierre de Rome, pour vous faire apprécier l'étendue et la hauteur de la reine des cathédrales, on vous montre le petit doigt d'une statue qui a je ne sais quelle longueur et qui vous semble un petit doigt naturel. Or, on a tant critiqué les descriptions, néanmoins si nécessaires à l'histoire de nos mœurs, qu'il faut imiter ici le cicérone romain. Donc, en entrant dans la salle à manger, le baron ne put s'empêcher de faire manier à Esther l'étoffe des rideaux de croisée, drapée avec une abondance royale, doublée en moire blanche et garnie d'une passementerie digne du corsage d'une princesse portugaise. Cette étoffe était une soierie achetée à Canton, où la patience chinoise avait su peindre les oiseaux d'Asie avec une perfection dont le modèle n'existe que sur les vélins du Moyen-Âge ou dans le missel de Charles Quint, l'orgueil de la bibliothèque impériale de Vienne. Elle a coûté 2 000 francs l'aune à un milord qui l'a rabordé des Indes. Très bien, charmant. Quel plaisir ce sera de boire ici du vin de champagne, dit Esther. La mousse ne salira pas sur du carreau. « Oh, madame, dit Europe, mais voyez donc le tapis. Comme on a fait dessiner le tapis pour le duc d'Orlonia, mon ami, qui le trouve trop cher, je l'ai pris pour vous, qui êtes une reine, dit Nucingen. Par un effet du hasard, ce tapis, dû à l'un de nos plus ingénieux dessinateurs, se trouvait assorti aux caprices de la draperie chinoise. Les murs, peints par Schinner et Léon de Lora, représentaient des scènes voluptueuses, mises en relief par des ébènes sculptées, acquises à prix d'or chez du Sommerard, et formant des panneaux où de simples filets d'or attiraient sobrement la lumière. Maintenant, vous pouvez juger du reste. Vous avez bien fait de m'amener ici, dit Esther. Il me faudra bien 8 jours pour m'habituer à ma maison et ne pas avoir l'air d'une parvenue. Ma maison, répétait joyeusement le baron. Vous acceptez donc? Mais oui, 1000 fois oui, animal bête, dit-elle en souriant. Animal est étasé. Bête est là pour la caresse, reprit-elle en le regardant. Le pauvre loup-cervier prit la main d'Esther et la mit sur son cœur. Il était assez animal pour sentir, mais trop bête pour trouver un mot. Foyez comme il part, pour un petit mot de tendresse, reprit-il. Et il emmena sa déesse, dans la chambre à coucher. « Oh, madame, dit Eugénie, je ne peux pas rester là, moi. L'on a trop envie de se mettre au lit. »« Eh bien, dit Esther, je veux te payer tout ça d'un seul coup. Tiens, mon gros éléphant, après le dîner, nous irons ensemble au spectacle. J'ai une fringale de spectacle. » Il y avait précisément 5 ans qu'Esther n'était allée à un théâtre. Tout Paris se portait alors à la Porte Saint-Martin pour y voir une de ces pièces auxquelles la puissance des acteurs communique une expression de réalité terrible, Richard Darlington. Comme toutes les natures ingénues, Esther aimait autant à ressentir les tressaillements de la frayeur qu'à se laisser aller aux larmes de la tendresse. « Nous irons voir Frédéric Lemaître, dit-elle. J'adore cet acteur-là. C'est un trame sauvage, dit Nucingen, qui se vit contrainte en un moment de s'afficher. Le baron envoya son domestique chercher une des 2 loges d'avant-scène aux premières. Autre originalité parisienne, quand le succès, au pied d'argile, emplit une salle, il y a toujours une loge d'avant-scène allouée 10 minutes avant le lever du rideau. Les directeurs la gardent pour eux, quand il ne s'est pas présenté pour la prendre, une passion à la Nucingen. Cette loge est, comme la primeur de chevet, l'impôt prélevé sur les fantaisies de l'Olympe parisien. Il est inutile de parler du service. Nucingen avait entassé 3 services. Le petit service, le moyen service, le grand service. Le dessert du grand service était en entier, assiettes et plats, de vermeil sculpté. Le banquier, pour ne pas paraître écraser la table de valeur d'or et d'argent, avait joint à tous ses services une porcelaine de la plus charmante fragilité, genre Saxe, et qui coûtait plus qu'un service d'argenterie. Quant aux nappages, le linge de Saxe, le linge d'Angleterre, de Flandre et de France rivalisaient de perfection avec leurs fleurs damassées. Au dîner, ce fut au tour du baron d'être surprise en goûtant la cuisine d'Asie. « Je comprends, dit-il. Pourquoi vous la nommez Asie? C'est d'une cuisine asiatique. »« Ah, je commence à croire qu'il m'aime, dit Esther à Europe. Il a dit quelque chose qui ressemble à un mot. »« Il y en a plusieurs, dit-il. Eh bien, il est encore plus turcaré qu'on le dit, s'écria la rieuse courtisane, à cette réponse digne des naïvetés célèbres échappées aux banquiers. La cuisine était épicée, de manière à donner une indigestion au baron, afin qu'il s'en allât chez lui de bonne heure. Aussi, fût-ce tout ce qu'il rapporta de sa première entrevue avec Esther, en fait de plaisir. Au spectacle, il fut obligé de boire un nombre infini de verres d'eau sucrée, en laissant Esther seule pendant les entr'actes. Par une rencontre si prévisible qu'on ne saurait la nommer un hasard, Tullia, Mariette et Madame du Val-Noble se trouvaient au spectacle ce jour-là. Richard Darlington fut un de ces succès fous, et mérité d'ailleurs, comme il ne s'en voit qu'à Paris. En voyant ce drame, tous les hommes concevaient qu'on pût jeter sa femme légitime par la fenêtre, et toutes les femmes aimaient à se voir injustement opprimées. Les femmes se disaient « C'est trop fort, nous ne sommes que poussées, mais ça nous arrive souvent. » Or une créature de la beauté d'Esther, mise comme Esther, ne pouvait pas flamber impunément à l'avant-scène de la porte Saint-Martin. Aussi, dès le second acte, y eut-il dans la loge des deux danseuses une sorte de révolution, causée par la constatation de l'identité de la belle inconnue avec la torpille. « Ah ça, d'où sort-elle ?» dit Mariette à Madame du Val-Noble. « Je la croyais noyée. »« Est-ce elle ? Elle me paraît 37 fois plus jeune et plus belle qu'il y a 6 ans. Elle s'est peut-être conservée, comme Madame d'Espard et Madame Zayonchek, dans la glace, » dit le comte de Brambourg, qui avait conduit les 3 femmes au spectacle, dans une loge du rez-de-chaussée. « N'est-ce pas le rat ?» que vous vouliez m'envoyer pour empaumer mon oncle, dit-il à Tullia. Précisément, dit la danseuse. Du Bruel, allez donc à l'orchestre, voir si c'est bien elle. Fait-elle sa tête ? S'écria Madame du Val-Noble, en se servant d'une admirable expression du vocabulaire des filles. Oh ! S'écria le comte de Brambourg, elle en a le droit, car elle est avec mon ami, le baron de Nucingen. J'y vais. Est-ce que ce serait cette prétendue Jeanne d'Arc qui a conquis Nucingen et avec laquelle on nous embête depuis 3 mois ? Dit Mariette. Bonsoir, mon cher baron, dit Philippe Brideau en entrant dans la loge de Nucingen. Vous voilà donc marié avec Mademoiselle Esther. Mademoiselle, je suis un pauvre officier que vous deviez jadis tirer d'un mauvais pas à Issoudun, Philippe Brideau. Connais pas, dit Esther, en braquant ses jumelles sur la salle. « Mademoiselle, répondit le baron, ne s'appelle plus Esther, du cours. Elle a nom, Madame de Jean-Py, un petit bien que je lui ai acheté. »« Si vous faites bien les choses, dit le comte, ces dames disent que Madame de Jean-Py fait trop sa tête. Si vous ne voulez pas vous souvenir de moi, daignerez-vous reconnaître Mariette, Tullia, Madame du Val-Noble, dit ce parvenu, que le duc de Maufrigneuse avait mis en faveur auprès du dauphin. Si ces dames sont bonnes pour moi, je suis disposée à leur être très agréable, répondit sèchement Madame de Jean-Py. Bonnes, dit Philippe, elles sont excellentes, elles vous surnomment Jeanne d'Arc. Eh bien, si ces dames veulent vous tenir compagnie, dit Nucingen, je vous laisserai seule, car j'ai trop manché. Votre voiture viendra vous prendre avec vos chants. Diable t'assis. Pour la première fois, vous me laisseriez seule, dit Esther. Allons donc, il faut savoir mourir sur votre bord. J'ai besoin de mon homme pour sortir. Si j'étais insultée, je crierais donc pour rien. L'égoïsme du vieux millionnaire dut céder devant les obligations de l'amoureux. Le baron souffrit et resta. Esther avait ses raisons pour garder son homme. Si elle recevait ses anciennes connaissances, elle ne devait pas être questionnée aussi sérieusement, en compagnie, qu'elle l'aurait été seule. Philippe Brideau se hâta de revenir dans la loge des danseuses, auxquelles il apprit l'état des choses. « Ah, c'est elle qui hérite de ma maison de la rue Saint-Georges, » dit avec amertume Madame du Val-Noble, qui, dans le langage de ces sortes de femmes, se trouvait à pied. « Probablement, dit le colonel. Dutilé m'a dit que le baron y avait dépensé 3 fois autant que votre pauvre Fallet. Allons donc la voir. » dit Tullia. Ma foi, non, répliqua Mariette. Elle est trop belle. J'irai la voir chez elle. Je me trouve assez bien pour me risquer, répondit Tullia. Le hardi premier sujet vint donc pendant l'entracte et renouvela connaissance avec Esther, qui se tint dans les généralités. Et d'où reviens-tu, ma chère enfant? Demanda la danseuse, qui n'en pouvait mais de curiosité. Oh, je suis restée pendant 5 ans dans un château des Alpes, avec un Anglais jaloux comme un tigre, un nabab. Je l'appelais un abot, car il n'était pas si grand que le bailli de Ferrette. Et je suis retombée à un banquier, de Caraïbes en syllabes, comme dit Florine. Aussi, maintenant que me voilà revenue à Paris, ai-je des envies de m'amuser, qui me vont rendre un vrai carnaval. J'aurai maison ouverte. Ah, il faut me refaire de 5 ans de solitude, et je commence à me rattraper. 5 ans d'anglais, c'est trop. D'après les affiches, on doit n'y être que 6 semaines. Est-ce le baron qui t'a donné cette dentelle? Non, c'est un reste du nabab. Ai-je du malheur, ma chère? Il était jaune, comme un rire d'ami devant un succès. J'ai cru qu'il mourrait en 10 mois. Bah, il était fort comme une alpe. Il faut se défier de tous ceux qui se disent malades du foie. Je ne veux plus entendre parler de foie. J'ai eu trop de foie. Au proverbe, ce nabab m'a volé. Il est mort sans faire de testament. Et la famille m'a mise à la porte comme si j'avais eu la peste. Aussi ai-je dit à ce gros-là, paye pour deux. Vous avez bien raison de m'appeler une Jeanne d'Arc. J'ai perdu l'Angleterre, et je mourrai peut-être brûlée. D'amour, dit Tullia. Et vive, répondit Esther, que ce mot rendit songeuse. Le baron riait de toutes ces niaiseries aux gros selles, mais il ne les comprenait pas toujours sur le champ, en sorte que son rire ressemblait à ces fusées oubliées qui partent après un feu d'artifice. Nous vivons tous dans une sphère quelconque, et les habitants de toutes les sphères sont doués d'une dose égale de curiosité. Le lendemain, à l'opéra, l'aventure du retour d'Esther fut la nouvelle des coulisses. Le matin, de 2 heures à 4 heures, tout le Paris des Champs-Élysées avait reconnu la torpille, et savait enfin qu'elle était l'objet de la passion du baron de Nucingen. « Savez-vous, dit Blondet à de Marsay dans le foyer de l'opéra, que la torpille a disparu le lendemain du jour où nous l'avons reconnue ici, pour être la maîtresse du petit Rubempré. À Paris comme en province, tout se sait. La police de la rue de Jérusalem n'est pas si bien faite que celle du monde, où chacun s'espionne sans le savoir. Aussi, Carlos avait-il bien deviné quel était le danger de la position de Lucien pendant et après la rue Thébault. Il n'existe pas de situation plus horrible que celle où se trouvait Madame du Val-Noble, et le mot « être à pied » la rend à merveille. L'insouciance et la prodigalité de ces femmes les empêchent de songer à l'avenir. Dans ce monde exceptionnel, beaucoup plus comique et spirituel qu'on ne le pense, les femmes, qui ne sont pas belles de cette beauté positive, presque inaltérable et facile à reconnaître, les femmes qui ne peuvent être aimées enfin que par caprice, pensent seules à leur vieillesse et se font une fortune. Plus elles sont belles, plus imprévoyantes elles sont. Tu as donc peur de devenir laide, que tu te fais des rentes, est un mot de Florine à Mariette, qui peut faire comprendre une des causes de cette prodigalité. Dans le cas d'un spéculateur qui se tue, d'un prodigue à bout de ses sacs, ces femmes tombent donc, avec une effroyable rapidité, d'une opulence effrontée à une profonde misère. Elles se jettent alors dans les bras de la marchande à la toilette. Elles vendent à vil prix des bijoux exquis. Elles font des dettes, surtout pour rester dans un luxe apparent qui leur permet de retrouver ce qu'elles viennent de perdre, une caisse où puiser. Ces hauts et bas de leur vie expliquent assez bien la cherté d'une liaison presque toujours ménagée en réalité, comme Asie avait agrafé, autre mot du vocabulaire, Nucingen avec Esther. Aussi, ceux qui connaissent bien leur Paris savent-ils parfaitement à quoi s'en tenir en retrouvant aux Champs-Élysées ce bazar mouvant et tumultueux, telle femme en voiture de louage, après l'avoir vue un an, 6 mois auparavant, dans un équipage étourdissant de luxe et de la plus belle tenue. Quand on tombe à Sainte-Pélagie, il faut savoir rebondir au bois de Boulogne, disait Florine en riant avec Blondet du petit vicomte de Portenduère. Quelques femmes habiles ne risquent jamais ce contraste. Elles restent ensevelies en d'affreux hôtels garnis, où elles expient leur profusion par des privations, comme en souffrent les voyageurs égarés dans un Sahara quelconque. Mais elles n'en conçoivent pas la moindre velléité d'économie. Elles se hasardent au bal masqué, elles entreprennent un voyage en province, elles se montrent bien mises sur les boulevards par les belles journées. Elles trouvent d'ailleurs entre elles le dévouement que se témoignent les classes proscrites. Les secours à donner coûtent peu de choses à la femme heureuse, qui se dit en elle-même « Je serai comme ça dimanche ». La protection la plus efficace est néanmoins celle de la marchande à la toilette. Quand cette usurière se trouve créancière, elle remue et fouille tous les cœurs de vieillards en faveur de son hypothèque à brodequins et à chapeaux. Incapable de prévoir le désastre d'un des plus riches et des plus habiles agents de change, Madame du Val-Noble fut donc prise en plein désordre. Elle employait l'argent de Fallet à ses caprices et s'en remettait sur lui pour les choses utiles et pour son avenir. « Comment, disait-elle à Mariette, s'attendre à cela de la part d'un homme qui paraissait si bon enfant ?» Dans presque toutes les classes de la société, le bon enfant est un homme qui a de la largeur, qui prête quelques écus par-ci, par-là, sans les redemander, qui se conduit toujours d'après les règles d'une certaine délicatesse, en dehors de la moralité vulgaire, obligée, courante. Certaines gens, dits vertueux et probes, semblablement à Nucingen, ont ruiné leurs bienfaiteurs. Et certaines gens, sortis de la police correctionnelle, sont d'une ingénieuse probité pour une femme. La vertu complète, le rêve de Molière, Alceste, est excessivement rare. Elle se rencontre néanmoins partout, même à Paris. Le bon enfant est le produit d'une certaine grâce dans le caractère qui ne prouve rien. Un homme est ainsi, comme le chat est soyeux, comme une pantoufle est faite pour être prête aux pieds. Donc, dans l'acception du mot « bon enfant » par les femmes entretenues, Fallet devait avertir sa maîtresse de la faillite et lui laisser de quoi vivre. D'Estourny, le galant escroc, était un bon enfant. Il trichait au jeu, mais il avait mis de côté 30 000 francs pour sa maîtresse. Aussi, dans les soupers de carnaval, les femmes répondaient-elles à ses accusateurs. « C'est égal, vous aurez beau dire, Georges était un bon enfant, il avait de belles manières, il méritait un meilleur sort. » Les filles se moquent des lois, elles adorent une certaine délicatesse, elles savent se vendre, comme Esther, pour un beau idéal secret, leur religion à elles. Après avoir à grand-peine sauver quelques bijoux du naufrage, Madame du Val-Noble succombait sous le poids terrible de cette accusation. Elle a ruiné Fallet. Elle atteignait à l'âge de 30 ans, et quoiqu'elle fût dans tout le développement de sa beauté, néanmoins elle pouvait d'autant mieux passer pour une vieille femme que dans ses crises, une femme a contre soi toutes ses rivales. Mariette, Florine et Tullia recevaient bien leur amie à dîner, lui donnaient bien quelques secours, mais, ne connaissant pas les chiffres de ses dettes, elle n'osait sonder la profondeur de ce gouffre. 6 ans d'intervalle constituaient un point d'aiguille un peu trop long dans les fluctuations de la mer parisienne, entre la Torpille et Madame du Val-Noble, pour que la femme à pied s'adressât à la femme à voiture. Mais la Val-Noble savait Esther trop généreuse pour ne pas songer parfois qu'elle avait, selon son mot, hérité d'elle, et venir à elle dans une rencontre qui semblerait fortuite, quoique cherchée. Pour faire arriver ce hasard, Madame du Val-Noble, mise en femme comme il faut, se promenait aux Champs-Élysées tous les jours, ayant au bras Théodore Gaillard, qui a fini par l'épouser, et qui, dans cette détresse, se conduisait très bien avec son ancienne maîtresse. Il lui donnait des loges, et la faisait inviter à toutes les parties. Elle se flattait que par un beau temps, Esther se promènerait et qu'elle se trouverait face à face. Esther avait Paccard pour cocher, car sa maison fut en 5 jours organisée par Asie, par Europe et Paccard, d'après les instructions de Carlos, de manière à faire de la maison de la rue Saint-Georges une forteresse imprenable. De son côté, Peyrade, mû par sa haine profonde, par son désir de vengeance, et surtout dans le dessein d'établir sa chère Lydie, prit pour but de promenade les Champs-Élysées, dès que Contenson lui dit que la maîtresse de M. de Nucingen y était visible. Peyrade se mettait si parfaitement en anglais et parlait si bien en français avec les gazouillements que les Anglais introduisent dans notre langage. Il savait si purement l'anglais, il connaissait si complètement les affaires de ce pays, où par 3 fois la police de Paris l'avait envoyé, en 1779 et 1786, qu'il soutint son rôle d'anglais chez des ambassadeurs et à Londres sans éveiller de soupçons. Peyrade, qui tenait beaucoup de Musson, le fameux mystificateur, savait se déguiser avec tant d'art que Contenson, un jour, ne le reconnut pas. Accompagné de Contenson, déguisé en mulâtre, Peyrade examinait, de cet œil qui semble inattentif, mais qui voit tout, Esther et ses gens. Il se trouva donc naturellement dans la contre-allée où les gens à équipage se promènent quand il fait sec et beau, le jour où Esther y rencontra Madame du Val-Noble. Peyrade, suivi de son mulâtre en livrée, marcha sans affectation, et en vrai nabab qui ne pense qu'à lui-même, sur la ligne des deux femmes, de manière à saisir à la volée quelques mots de leur conversation. « Eh bien, ma chère enfant, disait Esther à Madame du Val-Noble, venez me voir. Nucingen se doit à lui-même de ne pas laisser sans un liard la maîtresse de son agent de change. D'autant plus qu'on dit qu'il l'a ruinée, dit Théodore Gaillard, et que nous pourrions bien le faire chanter. Il dîne chez moi demain. Viens, ma bonne, dit Esther. Puis elle lui dit à l'oreille, j'en fais ce que je veux. Il n'a pas encore ça. Elle mit un de ses ongles tout gantés sous la plus jolie de ses dents et fit ce geste assez connu dont la signification énergique veut dire « rien du tout ». « Tu le tiens ?»« Ma chère, il n'a encore payé que mes dettes. »« Est-il petite poche ?» s'écria Suzanne du Val-Noble. « Oh !» reprit Esther, « j'en avais à faire reculer un ministre des Finances. Maintenant, je veux 30 000 francs de rente. » avant le premier coup de minuit. Oh, il est charmant. Je n'ai pas à me plaindre. Il va bien. Dans 8 jours, nous pendons la crémaillère. Tu en seras. Le matin, il doit m'offrir le contrat de la maison de la rue Saint-Georges. Décemment, on ne peut pas habiter une pareille maison sans 30 000 francs de rente à soi, pour les retrouver en cas de malheur. J'ai connu la misère, et je n'en veux plus. Il y a de certaines connaissances dont on a trop tout de suite. Toi qui disais « La fortune, c'est moi !»« Comme tu as changé !» s'écria Suzanne. « C'est l'air de la Suisse, on y devient économe. Tiens, vas-y ma chère, fais-y un Suisse, et tu en feras peut-être un mari, car ils ne savent pas encore ce que sont des femmes comme nous. Dans tous les cas, tu en reviendras avec l'amour des rentes sur le grand livre, un amour honnête et délicat. » Adieu. Esther remonta dans sa belle voiture, attelée des plus magnifiques chevaux gris pommelés qui fussent alors dans Paris. « La femme qui monte en voiture !» dit alors Peyrade en anglais à Contenson. « Eh bien, mais j'aime encore mieux celle qui se promène. Tu vas la suivre et savoir qui elle est. » « Voici ce que cet anglais vient de dire en anglais, » dit Théodore Gaillard, en répétant à Madame du Val-Noble la phrase de Peyrade. Avant de se risquer à parler anglais, Peyrade avait lâché dans cette langue un mot qui fit faire à Théodore Gaillard un mouvement de physionomie par lequel il s'était assuré que le journaliste savait l'anglais. Madame du Val-Noble alla dès lors très lentement chez elle, rue Louis-le-Grand, dans un hôtel garni décent, en regardant de côté pour voir si le mulâtre la suivait. Cet établissement appartenait à une Madame Gérard, que dans ses jours de splendeur, Madame du Val-Noble avait obligé, et qui lui témoignait de la reconnaissance en la logeant d'une façon convenable. Cette bonne femme, bourgeoise honnête et pleine de vertu, pieuse même, acceptait la courtisane comme une femme d'un ordre supérieur. Elle la voyait toujours au milieu de son luxe, elle la prenait pour une reine déchue, elle lui confiait ses filles. Et chose plus naturelle qu'on ne le pense, la courtisane était aussi scrupuleuse en les menant au spectacle que le serait une mère. Elle était aimée des deux demoiselles Gérard. Cette brave et digne hôtesse ressemblait à ces sublimes prêtres qui voient encore une créature à sauver, à aimer, dans ces femmes mises hors la loi. Madame du Val-Noble respectait cette honnêteté. Souvent, elle l'enviait en causant le soir et en déplorant ses malheurs. « Vous êtes encore belle, vous pouvez faire une bonne fin, » disait Madame Gérard. Madame du Val-Noble n'était d'ailleurs tombée que relativement. La toilette de cette femme, si gaspilleuse et si élégante, était encore assez bien fournie pour lui permettre de paraître à l'occasion, comme le jour de Richard Darlington à la porte Saint-Martin, dans tout son éclat. Madame Gérard payait encore assez gracieusement les voitures dont la femme à pied avait besoin pour aller dîner en ville, pour se rendre au spectacle et en revenir. « Eh bien, ma chère Madame Gérard, » dit-elle à cette honnête mère de famille, « mon sort va changer, je crois. Allons, madame, tant mieux. Mais soyez sage, pensez à l'avenir, ne faites plus de dettes. J'ai tant de mal à renvoyer ceux qui vous cherchent. Et ne vous inquiétez pas de ces chiens-là, qui tous ont gagné des sommes énormes avec moi. Tenez, voici des billets des variétés pour vos filles, une bonne loge au deuxième. Si quelqu'un me demandait ce soir et que je ne fusse pas rentrée, on laisserait monter tout de même. Adèle, mon ancienne femme de chambre, y sera. Je vais vous l'envoyer. » Madame du Val-Noble, qui n'avait ni tante ni mère, se trouvait forcée de recourir à sa femme de chambre, aussi à pied, pour faire jouer le rôle d'une sainte Estève auprès de l'inconnu, dont la conquête allait lui permettre de remonter à son rang. Elle alla dîner avec Théodore Gaillard, qui pour ce jour-là se trouvait avoir une partie, c'est-à-dire un dîner offert par Nathan, qui payait un pari perdu, une de ces débauches dont on dit aux invités « il y aura des femmes ». Peyrade ne s'était pas décidé sans de puissantes raisons à donner de sa personne dans le champ de cette intrigue. Sa curiosité, comme celle de Corentin, était d'ailleurs si vivement excité que, sans raison, il se fût encore mêlé volontiers à ce drame. En ce moment-là, la politique de Charles X avait achevé sa dernière évolution. Après avoir confié le timon des affaires à des ministres de son choix, le roi préparait la conquête d'Alger pour faire servir cette gloire de passeport à ce qu'on a nommé son coup d'État. Au-dedans, personne ne conspirait plus. Charles X croyait n'avoir aucun adversaire. En politique, comme en mer, il y a des calmes trompeurs. Corentin était donc tombé dans une inaction absolue. Dans cette situation, un vrai chasseur, pour s'entretenir la main, faute de griffes, tu démerles. Domitien, lui, tuait des mouches, faute de chrétiens. Témoin de l'arrestation d'Esther, Contenson avait, avec le sens exquis de l'espion, très bien jugé cette opération. Ainsi qu'on l'a vu, le drôle n'avait pas pris la peine de gazer son opinion au baron de Nucingen. Au profit de qui rançonne-t-on la passion du banquier? Fut la première question que se posèrent les deux amis. Après avoir reconnu dans Zazie un personnage de la pièce, Contenson avait espéré, par elle, arriver à l'auteur. Mais elle lui coula des mains pendant quelque temps, en se cachant comme une anguille dans la vase parisienne. Et lorsqu'il la retrouva, cuisinière chez Esther, la coopération de cette mulâtresse lui parut inexplicable. Pour la première fois, les deux artistes en espionnage rencontraient donc un texte indéchiffrable, tout en soupçonnant une ténébreuse histoire. Après trois attaques successives et hardies sur la maison rue Thébault, Contenson trouva le mutisme le plus obstiné. Tant qu'Esther y demeura, le portier sembla dominé par une profonde terreur. Peut-être Asie avait-elle promis des boulettes empoisonnées à toute la famille en cas d'indiscrétion. Le lendemain du jour où Esther quitta son appartement, Contenson trouva ce portier un peu plus raisonnable. Il regrettait beaucoup cette petite dame qui, disait-il, le nourrissait des restes de sa table. Contenson, déguisé en courtier de commerce, marchandait l'appartement, et il écoutait les doléances du portier en se moquant de lui, mettant en doute tout ce qu'il disait par des « Est-ce possible ?»« Oui, monsieur. Cette petite dame a demeuré 5 ans ici, sans en être jamais sortie, à preuve que son amant, jaloux, quoiqu'elle fût sans reproche, prenait les plus grandes précautions pour venir, pour entrer, pour sortir. C'était d'ailleurs un très beau jeune homme. » Lucien se trouvait encore à Marsac, chez sa sœur, Madame Séchard. Mais dès qu'il fut revenu, Contenson envoya le portier Kemalaké demander à Monsieur de Rubempré s'il consentait à vendre les meubles de l'appartement quitté par Madame Van Boxeck. Le portier reconnut alors dans Lucien l'amant mystérieux de la jeune veuve, et Contenson n'en voulait pas savoir davantage. On doit juger de l'étonnement profond, quoique contenu, dont furent saisis Lucien et Carlos, qui parurent croire le portier fou. Ils essayèrent de le lui persuader.